Cette semaine à la vie en BD, on va faire un tour au Canton de l'Est à travers la trilogie Corvus. Bon mardi à toutes et tous, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure, pour parler 9e art, pour parler, c'est dans le titre, bande dessinée. J'espère que ça va bien de votre côté. Évidemment, j'en profite pour mentionner d'entrée de jeu, on met les cartes sur table, que les émissions également sont disponibles en balado diffusion à partir de lavieenbd.com. Vous allez trouver toute l'information relativement à l'émission. Et une émission cette semaine qui va nous amener dans différentes directions, mais notamment en deuxième partie. Eh bien, on ira faire un tour du côté des cantons de l'Est pour aller porter un regard sur l'histoire, entre autres, ferroviaire de cette région-là et sur l'histoire des défricheurs à travers une poésie du courage de Drac Bertium. Drac Bertium qui est un type qui a fait son chemin, je pense, au fil des années, qui a été, entre autres, au fil du temps impliqué dans la sphère et dans le monde de la BD. Qui a eu divers métiers et tâches, qui a été dessinateur aussi et autres, et qui avait une histoire qu'il portait en lui pendant, mon Dieu, plus d'une quarantaine d'années. Et en 2016, donc, il a décidé de s'investir corps et âme dans le développement de cette histoire, donc qu'il a scénarisé au fil de 5000 croquis d'abord, et ensuite que ça a donné donc l'histoire qui s'étend sur à peu près 360 planches. Une histoire qu'il a développée sur 3 livres et sur à peu près 27 mois de travail, de dessin à proprement parler. Ça donne un objet qui est assez inhabituel en matière de facture, je trouve, puisqu'on oscille entre des textes écrits, prose, poétique, de la bande dessinée plus traditionnelle, du livre illustré. Alors, je trouve qu'il y a quand même une belle réflexion sur la forme à avoir autour de tout ça, nonobstant justement l'aspect historique de l'œuvre et le travail de dessin, de scénarisation et le reste. Alors bref, on avait envie de creuser un petit peu plus autour de ces 3 albums qui sont sortis coup sur coup en mai dernier. Alors, on se met un peu en mode rattrapage cette semaine autour de cette bande dessinée. Alors, c'est le cœur de l'émission, mais évidemment, il y aura d'autres gens qui passeront au micro. Je regarde entre autres Michel Giguère qui sera avec nous dans quelques instants pour mettre la table autour des rendez-vous de la BD. Et on portera un regard aussi sur quelques albums qui sont sortis au fil des dernières semaines, des derniers mois, selon le cas. Alors, c'est le menu pour cette semaine, ici, à La Vie en BD. Alors, toujours à La Vie en BD, on retrouve maintenant Michel Giguère qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Alors, Michel, en fait, je vois ton nom apparaître sporadiquement, oui, pour les rendez-vous de la BD, mais je pense que c'est bon de se rappeler que t'as aussi une formation d'auteur BD, que t'as été professeur de bande dessinée, que aussi tu fais du commissariat d'albums d'exposition. Je pense qu'on en avait parlé il y a quelques années avec 1792 à main levée, un ouvrage que t'avais piloté. Et je fais cette petite parenthèse là avant de tomber dans la chronique d'aujourd'hui, parce que tu as travaillé sur un projet en collaboration avec un groupe de recherche à l'université qui s'appelle le Trésor de la langue française au Québec, qui, eux, ont essentiellement pour mandat, dans le fond, de valoriser, d'explorer et d'étudier le parler francophone au Québec. Et pour mettre en valeur un peu leur travail d'analyse, ils ont monté, dans le fond, une exposition qu'on retrouve en ligne, mais qui désormais est aussi physiquement dans les résidences de l'Université Laval. nouvelles autour d'expressions, dans le fond, traditionnelles québécoises. Et là, je parle, par exemple, d'être dans les patates, de se tourner sur un dixaine, de pleurer comme une champlure, de mettre sur le doigt, de l'oie sur le bobo, puis des expressions comme ça.
Oui. La plupart, on les connaît bien. Souvent, mais il y en a quelques-unes qu'on connaît moins. Et puis, très souvent, on n'a pas trop idée de l'origine de ces expressions-là. Alors, ces linguistes-là font des recherches là-dessus. C'est un groupe, le Trésor de la langue française, le TLFQ, qui existe depuis des années. Et là, ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est qu'ils ont décidé de, si tu veux, télécharger leur dictionnaire qui était papier en ligne. Et ce faisant, tant qu'à faire, de l'actualiser, de l'améliorer, tout ça. Donc, c'est un travail colossal. C'est un immense chantier. Et tant qu'à faire, ils ont décidé de se donner une visibilité. Et ce faisant, ils ont fait appel à des historiens, à des journalistes, à des gens de théâtre, à des écrivains, des illustrateurs pour apporter leur touche avec soit écrire un paragraphe, faire une illustration, etc., pour agrémenter le site Internet. Et là, par la force des choses, à un moment donné, ils se sont tournés et ils se sont dit ça serait super d'avoir aussi de la bande dessinée. Et justement, ben, c'est le projet 1792 à main levée qui a fait qu'ils m'ont contacté parce qu'ils savaient que c'est ce que j'avais fait là-dessus. Alors, mon mandat, qui m'occupe depuis quelques années moi-même, ça a été de recruter 24 BDistes qui ont choisi autant d'expressions et chacun a transposé, a mis en scène et non pas vraiment expliqué, mais mettre en scène, la rendre vivante, là, son expression sous forme de strip ou de planche au choix. Et donc, c'est visible sur le site. Et puis, depuis cette semaine, il y a eu l'inauguration de fresques dans certaines résidences du campus de l'Université Laval. Alors, donc, une partie de ces planches-là qui ont été reproduites en très grand format. Et ça, c'est très chouette parce que dans les résidences d'étudiants, il y a une partie qui sont des étudiants étrangers, donc qui se retrouvent en contact avec la langue québécoise d'une façon très ludique et attrayante.
Oui, mais pour qui ont fréquenté les corridors de cet endroit-là, ça manque toujours un peu de couleur. Alors, nécessairement, ça devient peut-être un peu plus intéressant, plus visuel.
Oui.
Et je trouve que des projets comme ça, ça nous renvoie toujours aussi, je pense, au pouvoir de la BD pour synthétiser, pour expliquer, condenser un peu un savoir. On le voit au fil des années, de plus en plus, j'ai l'impression, des collaborations entre justement des laboratoires, entre des groupes de recherche et des créateurs BD, soit dans le contexte de résidence, je pense à ce que Martin PM fait, où c'est littéralement des résidences de création, faudra lui en parler d'ailleurs un peu plus tard cette saison-ci, ou en parallèle vers justement des projets qui allient un peu, je veux dire, un côté un peu poétique aussi pour expliquer une expression humoristique, mais dans le fond, encore là, on profite de l'aspect didactique au bout du compte de la BD. Ouais.
Ben, comme tu dis, d'abord, c'est un médium qui est plein de potentiel, qui a une certaine légèreté parce que le TLFQ a aussi fait réaliser des mini-vidéos qui sont eux aussi très ludiques et très instructifs en même temps, qui sont très réussis, que je trouve très chouettes, qui sont qu'on peut visionner aussi sur leur site. Mais ça, c'est beaucoup plus lourd, tandis que, tu sais, faire de la bande dessinée, une planche, un strip, tu sais, c'est plus léger un peu comme médium. Fait que ça permet plein de souplesse, plein de possibilités. Et t'as souligné une caractéristique incontournable, c'est le côté condensé, synthétique. Tu sais, j'ai toujours dit que la BD, c'était l'art du raccourci. On peut exprimer tellement de choses en quelques images à peine. Fait que donc, si tu dis aux gens, écoutez, allez sur le site du TLFQ, cherchez ça, Trésor de la langue française, la langue par la bande, et vous allez voir 24 bandes dessinées qui transposent des expressions québécoises en images. Et c'est une évidence, tu sais. Les gens vont tout de suite, en une phrase, ils vont dire « Hein ». C'est sûr, ça marche, ça doit donc être intéressant. Puis effectivement, et là, t'as 24 BDistes de tous les âges, de tous les genres. Certains vivent en région et non pas dans les grands centres. D'autres il y en a au moins deux là, vite comme ça, qui sont pas nés ici, qui ont immigré ici puis qui vivent au Québec depuis des années, donc qui ont un regard différent, avec une certaine distance sur la langue vernaculaire québécoise. Alors, beaucoup de diversité de styles, ça va de la BD très classique, soit dans le réalisme ou dans le caricatural, jusqu'à de la BD vraiment alternatives. Il y en a pour tous les goûts.
Puis c'est un peu ton objectif aussi, oui. Veux pas, parce que dans des projets comme ça, quand on nous aborde, ben, chaque auteur a un peu sa façon de faire les choses. Alors, si on va avec un éventail de styles, un éventail d'approches, ben, d'un côté, on met en valeur la richesse de la BD d'ici.
Oui.
Et de l'autre côté, on profite, j'ai l'impression, de différents outils, de différentes approches, de différentes créativités pour rendre, dans le fond, la même idée, la même expression. Et ce qui fait que, comme observateur, il y a moins de redondance. Il n'y a pas de redondance, dans le fond, parce qu'on saute d'un style à l'autre. On va vraiment dans un beau spectre de création. Là.
Ouais, puis il y a un mariage qui se fait entre une expression qui, en soi, est déjà colorée. T'sais? C'est un langage souvent très coloré, très imagé, très métaphorique. Et un artiste qui va le mettre en scène, qui va le mettre en image, qui va faire une petite scénette avec ça. Donc, on prendrait un sac, là, puis on mettrait les 24 expressions, puis les 24 BDistes, puis on les mélangerait, puis on ferait des pairages différents, puis on aurait quelque chose de complètement différent, là. Mais bon, là, ils en ont choisi une, ils en ont fait chacun une. Mais c'est à voir, c'est vraiment, vraiment trippant. C'est pas fini.
Alors, si vous avez l'occasion, ben, sur Internet, en fait, évidemment, donc, cherchez Trésor de la langue française au Québec, ou TLFQ, la langue par la bande.
Voilà.
C'est là que vous allez trouver ces éléments-là. En mettant ça sur l'engin de recherche de votre choix, vous allez tomber sur la page, là, nécessairement. Et si vous êtes à l'Université Laval, ben, passez aux résidences pour ouairer aussi un peu, si on profite d'expression, aussi. Et Michel, en fait, je ferme la parenthèse, donc Michel Giguère, le commissaire de bande dessinée, pour aller vers Michel Giguère, le médiateur en bande dessinée, puisque, ai-je besoin de le rappeler, cet automne encore, la Maison de la littérature va héberger les rendez-vous de la BD. Donc, présentation de la Bibliothèque de Québec, deuxième activité de la saison qui se tient demain soir, donc le mercredi 4 octobre 2023. Ça se passe sur la scène littéraire. Pour ceux qui nous attrapent, qui sont pas à Québec ou qui nous attrapent en retard, eh ben sachez que ça sera aussi disponible pour rediffusion là, sur le site Facebook de la Maison de la littérature.
Mais c'est tellement plus fun sur place en salle.
Nécessairement.
Ah, c'est une autre expérience, c'est tellement feutré comme atmosphère. Là.
Puis en plus, ben, les gens qui ne savent pas de quoi t'as l'air, ben, peuvent te voir aussi.
Non, mais en ligne aussi, ils me voient. Oui. Malheureusement, je suis en médaillon.
Désormais, mais c'est pas la même ambiance. On n'a pas le même charisme numérique ou sur place, disons-le comme ça.
Charisme numérique.
Non, mais il y en a qui sortent bien dans les capsules, dans TikTok. Il y en a d'autres que ça sort mieux en vrai.
Exact.
Alors, bref, demain, 4 octobre, je disais, tu vas recevoir de la visite rare. En fait, Mélanie Leclerc, qui sera de passage. Donc, Mélanie, qui nous avait offert contact en 2019 chez Mécanique Générale, temps libre en 2020 chez le même éditeur.
Oui, il faut dire que Contact avait d'abord été publié à compte d'auteur. J'ai d'ailleurs hâte de lui demander comment elle a trouvé ça, son expérience d'auto-édition, parce que ça ne doit pas être évident d'obtenir de la visibilité en librairie, entre autres, et de rejoindre son public cible. Et par ailleurs, ben, on va comparer les deux versions, parce que la réédition chez Mécanique Générale a été passablement remaniée.
Et Temps libre, c'est sa dernière publication à ce jour. Ça veut dire aussi qu'on attend depuis 3 ans sa nouvelle offrande qui arrivera peut-être.
Ben oui, je peux vous le confirmer, puis ça va être officiel demain. Puis je pense que n'importe qui a lu Temps libre sait que Mélanie a un emploi du temps hyper chargé avec son emploi alimentaire, ses contrats de médiation, elle aussi, son rôle de maman. Alors, on peut d'autant plus se réjouir qu'elle soit partie de Vaudreuil pour venir à notre rencontre à Québec. Alors, BDphile de la région de Québec, vous avez aucune raison de pas venir à la Maison de la littérature demain, vous glisser dans l'ambiance feutrée de la salle. Et puis, pour revenir à ta question, puis à l'intervalle qui nous sépare de sa dernière parution, Temps libre, il faut dire qu'elle travaille, bon, justement, dans ses temps libres, sur un nouveau projet, et elle m'a fourni plein de matériel inédit ou peu diffusé, dont, entre autres, plusieurs documents qu'on voit rarement, des pages de scénario, de découpage, des croquis annotés, des crayonnés. Alors, j'ai joyeusement pigé là-dedans pour compléter le diaporama de belle façon. Et Mélanie va donc pouvoir nous dévoiler sa méthode de travail ou bien encore son manque de méthode.
Et nécessairement, en fait, je veux dire, tu me dis ça et je me dis, mon Dieu, encore une fois, une grosse soirée en perspective.
Ben oui, il va y avoir beaucoup de projections d'images, beaucoup de contenu, malgré la rareté de ces publications. Entre autres parce qu'il s'agit de deux autofictions qui ouvrent sur différentes dimensions, à commencer par les thématiques de ces albums, évidemment. Contact porte sur les relations père-fille et sur la transmission. Dans ce cas-ci, la transmission de la passion pour la photographie et aussi une certaine vision de la photo. Alors que Temps libre aborde les relations mère-fille, aussi la cruelle conciliation travail-famille-création, et enfin, la question de la mémoire, des traces qu'on laisse ou qu'on laisse pas, à travers tout ça, à travers le personnage de sa marraine atteinte d'Alzheimer, que Mélanie s'évertue à filmer dans ses temps libres, filmer et interviewer aussi, avant que ses souvenirs s'estompent, avant que les mots s'effacent. Alors dois-je préciser que les deux albums de Mélanie Leclerc se révèlent hautement émouvants.
Et tu disais, Michel Giguère, qu'il y avait plusieurs dimensions dans son œuvre auto-fictionnelle. C'est difficile de pas souligner d'ailleurs là-dedans que son père était directeur photo pour l'Office national du film, et qui a travaillé notamment avec Pierre Perrault, et que son grand-père était nul autre aussi que Félix.
Ouais, deux icônes de notre culture. Alors, c'est d'autant plus difficile d'éviter le sujet de sa lignée qu'elle en parle elle-même dans ses BD. Alors, enfant, Mélanie Leclerc traversait les studios de l'ONF avec son papa. L'entourage de sa famille comptait nombre de personnes célèbres, en tout cas tout au moins connues. Perrault, entre autres, c'est un pilier du cinéma documentaire québécois, à une époque où ce cinéma-là rayonnait à l'international, c'est rien de le dire. Félix, ben, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'était déjà un mythe avant même sa mort. Et le patriarche de la chanson québécoise, un symbole national, un écrivain qui, personnellement, m'interpellait quand j'étais ado et qui m'interpelle encore. Eh bien, pour Mélanie, c'était son grand-papa. C'est fou d'y penser.
Et la soirée porte le titre « Mélanie Leclerc, la délicatesse du trait et du ton ». Donc, parlant de trait, peut-être, pour finir, en fait, deux mots sur son dessin.
Eh bien, elle a un trait délicat, effectivement, fragile même, un trait que je trouve tout à fait en accord avec sa sensibilité, sa discrétion. Elle fait pas dans l'esthétisation, elle peaufine pas jusqu'à la perfection, elle dessine pour raconter. Son dessin, c'est un mode d'expression pour elle. Son style graphique s'apparente au carnet de croquis, je trouve, avec ses traits imprécis mais expressifs, puis son lavis enveloppant qui est dans ses deux premiers albums.
Alors, en fait, ça donne le goût, en fait, mercredi, donc demain, à partir de 19h pile, à la Maison de la littérature dans le Vieux-Québec, c'est dans le cadre des rendez-vous de la BD. Donc, un entretien entre mon invité à l'émission, Michel Giguère, et l'autrice Mélanie Leclerc. Donc, une activité qui est gratuite, pas de réservation requise, et je le répète, ben, c'est aussi webdiffusé sur la page Facebook de la Maison de la littérature, si vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment pas vous rendre sur place. Et, ben, en fait, pour ceux qui ont profité d'un ou plusieurs de tes rencontre, on sait à quel point c'est riche, à quel point on va en profondeur d'ailleurs. Quand on a l'auteur, quand on a la planche, je veux dire, il y a de l'analyse, il y a de la discussion et il y a beaucoup d'apprentissage, je trouve, qu'on peut faire aussi dans un contexte comme celui-là.
Effectivement. Et comme je dis à chaque fois, on commence à l'heure pile parce que c'est web diffusé. Alors, calculez vos affaires, faut pas arriver trop en retard parce qu'on va rater quelque chose.
Michel Giguère, merci beaucoup.
Et au mois prochain.
Oui, au mois prochain. Alors, j'en profite pour mentionner par ailleurs que l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, l'ACBD, a dévoilé un peu plus tôt en septembre les quatre albums finalistes pour son prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise. C'est la 9e édition de ce prix. Un prix, en fait, j'aurais envie de dire, un prix international qui est dédié à la bande dessinée d'ici, puisqu'essentiellement de la façon dont le prix procède, c'est qu'il y a un comité, donc un comité Québec, si on peut dire, donc de journalistes, de critiques, de spécialistes de bande dessinée Québec, qui s'intéressent à la production québécoise, qui sont basés dans la province de Québec, qui font une sélection. Donc, ils choisissent 4 albums, et ces 4 albums-là, ensuite, sont fournis à l'ensemble des membres de l'association. On parle d'à peu près 96 adhérents, adhérentes, tout particulièrement en France et en Belgique. Et ben ceux-ci et celles-ci ont un peu le devoir imposé, dans le fond, de découvrir, de lire, de parcourir les 4 titres qui leur sont proposés pour eux-mêmes faire un vote et faire le choix final, dans le fond, du titre gagnant. Donc, présentement, à l'heure où on se parle, eh bien, le vote, il est en cours et les 4 titres qui ont été sélectionnés sont 4 suggestions là, d'entrée de jeu et titres vers lesquels vous pouvez vous diriger si vous appréciez les styles qui vous sont proposés. Il y en a plusieurs de ces titres-là. Enfin, il y en a 3 sur 4 dont on a déjà parlé à l'émission. Et le 4e, ben, on a parlé un peu par la bande puisqu'on avait attrapé l'auteur sur un précédent opus de son univers. Alors, vous pouvez aussi aller parcourir lavieenbd.com pour retrouver les entretiens qu'on a fait avec ces cinq, en fait, puisqu'il y a un duo créateur et créatrice. Alors, les albums qui ont été choisis, c'est La Cité Oblique de Christian Quesnel et Ariane Gélina, c'est chez Alto. Donc, La Cité Oblique, vous, c'est essentiellement, dans le fond, une adaptation d'un récit, d'un ensemble de récits de Lovecraft. Donc, il avait fait quand il était venu au Québec, donc To Quebec and the Stars, de 1976. Une adaptation qui a été faite, et d'abord, et ce qui est intéressant dans la démarche, dans le fond, d'abord par le dessin. Donc, Christian Quesnel qui a fait son adaptation, si on peut dire, de tout ça, dans son approche dont on a parlé un peu au début du mois, dans le fond, de narration axée sur le visuel, entre autres. Et par la suite, ben, c'est une autrice, Ariane Gélina, qui est venue adapter, dans le fond, à partir des textes de Lovecraft, à partir du récit visuel de Quesnel, donc qui est venue offrir une voix narrative, dans le fond, à ce récit-là, qui nous amène essentiellement dans une relecture de l'histoire de la Nouvelle-France, à saveur lovecraftienne, à saveur un peu horrifique, par moments où on joue avec ses tentacules et ses êtres tentaculaires. Ça donne un objet qui est esthétiquement très intéressant, narrativement très intéressant. C'est un album qui s'est retrouvé dans d'ailleurs plusieurs palmarès au fil de l'an dernier et à nouveau cette fois-ci. En parallèle, dans un tout autre style, on a La Méduse de Boom du côté des éditions Pow Pow, un autre de mes albums coup de cœur d'ailleurs de l'an dernier. La Méduse en fait un récit qui nous amène sur le terrain de la cécité et qui essaie de nous représenter graphiquement, de nous représenter visuellement l'expérience justement de la perte de vue. Et c'est un mécanisme d'un côté qui fonctionne parfaitement, d'un autre côté qui est parfaitement assumé par son autrice, Boom, qui va vraiment jusqu'au bout à l'intérieur de ce procédé-là. Dans un troisième temps, ben, ça crée une certaine immersion, dans le fond, pour le lecteur ou pour la lectrice qui va être confrontée à cet album-là. Et au-delà de ce procédé-là, ben, on retrouve une histoire qui débute peut-être un peu toute simple, mais qui tranquillement va prendre un virage un peu plus intense à cause justement de cette condition-là, où on va scier entre les récits l'histoire d'amour un peu plus personnelle qui est en train de se cristalliser, de se développer, et le récit de cette maladie-là qui est en train de se développer et qui va complètement, évidemment, transformer la vie de l'héroïne. C'est le genre de livre où, personnellement, je vous recommande de ne pas feuilleter en librairie, parce que vous allez perdre peut-être un peu de l'impact de tout ça. Au besoin, au pire, regardez simplement le côté de couverture là, où les pages sont imprimées. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer en cours de récit, mais n'allez pas plus loin. Il faut vraiment profiter de cette immersion-là qui est proposée par Boom. Les Rescapés de l'éternité de Grégoire Bouchard, donc c'est chez Moelle Graphique. Ça fait suite en fait à ses autres ouvrages qu'il avait offert, entre autres, je crois que c'était chez Paquet, un éditeur belge. Les Rescapés de l'éternité, c'est une nouvelle aventure de Bob Leclerc, ce héros que porte Grégoire Bouchard depuis déjà plusieurs années, qu'il porte à travers un dessin de ligne, qu'on pourrait dire un peu ligne claire. En fait, je suis pas super bon dans les écoles de style et le reste, mais donc un dessin comme ça, mais extrêmement chargé, extrêmement riche en détails. C'est le genre de récit où, sincèrement, je vous recommande, si vous ouvrez l'album et vous vous en sentez un peu emporté par la page, un peu assommé par la quantité de détails, je vous recommande de persister parce qu'éventuellement, cette abondance-là devient presque une immersion, devient presque hypnotique. On est complètement happé par chaque planche de Grégoire Bouchard. Il y a tellement de détails, il y a tellement d'éléments, il y a tellement une richesse de composition, d'un choix d'éléments, un choix de couleurs. C'est assez monumental, je pense, comme travail, ce qu'il nous offre au fil des années. Et évidemment, les Rescapés de l'éternité sont dans cette lignée-là. Donc, des récits de science-fiction, les 150 dernières pages, là, ça devient intense, de plus en plus intense. Il y a un crescendo dans ce qui se passe, dans les enjeux qui sont confrontés aussi. Donc, bref, un très, très bel album également de ce côté. Et le dernier, c'est le storyboard de Wim Wenders de Stéphane Lemardelet du côté de la boîte à bulles. Et ici, c'est un bel exemple de bande dessinée qui peut servir pour amener une réflexion, amener une exploration autour d'un autre médium, donc ici le cinéma. Et à travers donc ce storyboard de Wim Wenders, on découvre d'un côté la réflexion sur l'image du cinéaste qui est au cœur de cette bande dessinée-là, de l'autre la capacité qu'a l'image à synthétiser, à découper l'action à travers la production du storyboard par Stéphane Lemardelet d'un film, d'une introduction d'un film de Wim Wenders. On se retrouve en parallèle à l'intérieur des coulisses de cette portion-là de tournage, dans sa préparation autant que dans sa réalisation. Et tout ça, porté par le médium BD, qui devient aussi un terrain d'exploration sur les réflexions visuelles, sur les éléments qui sont amenés par Wenders sur le référentiel, entre autres avec Edgar Hooper et autres éléments rattachés au visuel. Donc, ça fait un ouvrage qui est très complet, d'une certaine façon, et qui met en scène de belle façon le Québec hivernal dans la région d'Oka. Donc, quatre ouvrages qui sont de toute évidence à lire. Pour le vote, je pense qu'on se retrouvera en cours de mois avec le titre lauréat. Ce sera annoncé par communiqué de presse à la mi-octobre. Et le prix, lui, sera remis début décembre à l'occasion des rendez-vous de la BD de Gatineau. Alors voilà pour ce petit clin d'œil vers donc ces prix ACBD Québec. Et je pense que, encore là, 9e édition, l'an dernier, c'était Ziane qui l'avait obtenu avec Football Fantasy. Donc vraiment, l'idée, c'est d'explorer des titres, un peu à l'image d'ailleurs des autres prix de l'association, qui visent à soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, la bande dessinée en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie. Et vous aurez compris que les quatre titres qui sont proposés répondent bien à ses ambitions et à ses objectifs. Alors voilà donc pour ce petit clin d'œil. Si jamais vous ressentez le besoin de renoter tout ça, allez faire un tour sur lavieenbd.com. On trouve cette information dans les premières notes de blog. Alors voilà, on respire quelques instants et on se retrouve dans quelques secondes. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous, et on est un peu en mode rattrapage, je le disais en introduction. Je pense que des albums dont on souhaitait vous parler, et à un certain point, je pense que les dates de sortie, on peut les considérer, mais c'est pas une raison pour ne pas en parler non plus. Alors, deux albums qui ont été publiés coup sur coup en mai dernier, un troisième qui est disponible en complément, donc en PDF directement sur le site de l'éditeur. Donc ça s'appelle Corvus, une trilogie, donc tome 1, le conte, tome 2, le huis clos, tome 3, les cartouches. Je disais, c'est de Moelle Graphique et c'est par Drac Berthiaume qui est avec nous au bout du fil. Drac Berthiaume, bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, d'entrée de jeu, en fait, avec Corvus, j'aurais envie de dire qu'on parle d'une œuvre monumentale. Donc, c'est 360 pages à peu près réparties sur trois livres autour des pionniers qui ont développé, dans le fond, les premières routes, défriché les premières terres et surtout construit les voies ferrées des cantons de l'Est. Et de ce que j'en comprends, en fait, c'est une trilogie qui origine pour vous dans une anecdote qui vous avait été contée il y a 40-45 ans environ concernant des gens qui auraient, dans le fond, et c'est raconté dans le premier livre d'ailleurs, qui ont poussé littéralement un train sur la voie ferrée pour être payés pendant des kilomètres. Là.
Oui, tout à fait. Cette histoire-là est fondée sur une anecdote réelle. En fait, ça a été avéré dans les annales de la Société d'histoire de Sheffield, où j'ai retrouvé, on le mentionne, ce passage qui auquel on ne donnait pas beaucoup d'importance. Et à mes yeux, il en avait plus que je le souhaitais. Et je me suis donc dit, avant de disparaître, parce que je ne suis plus un jeune homme, je me rapproche rapidement des 80 ans, il fallait que je laisse ce témoignage-là, parce que c'est très important, à mes yeux du moins, de laisser le témoignage de ce qui a été fait avant nous, mais en même temps, de rappeler aux gens une autre façon de penser où on faisait prévaloir le travail, la fraternité aussi dans des conditions comme ça. Et puis, ben voilà. C'est pas un monument. On fera jamais assez de, à mon avis, on jettera jamais assez d'éclairage sur ce qui a été fait avant nous. Et pour moi, ça, c'est très important.
Et il y a un terme que vous utilisez, d'ailleurs, dans l'épilogue du troisième tome, où vous parlez, dans le fond, ça me donnait le côté hommage, peut-être un peu, qui ressort de ce que vous dites, et vous appelez ça une poésie du courage, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Pour moi, à mes yeux, c'est ça. Ben, aujourd'hui, je pense qu'on manque un peu de courage dans nos vies, pour toutes sortes de raisons. Je juge personne non plus en disant ça, mais les choses changent, c'est normal. Sauf qu'il y a une époque où on se plaignait pas pour rien. Surtout dans ces exemples-là, on voit que les gens, ils avaient à faire un boulot qui n'était pas très intéressant pour survivre. Et ils le faisaient dans des conditions assez pénibles. Et nous, aujourd'hui, on en profite, mais en oubliant un peu qui étaient vraiment ces gens-là et dans quelles conditions ils ont travaillé et comment ils ont développé aussi, du moins dans cet exemple du compte, une sorte de solidarité, alors qu'il n'y avait pas de syndicat à l'époque, pour résoudre un problème qui était quand même assez particulier.
Oui, qui était particulier, qui nous amène aussi peut-être justement vers la nécessité d'association et de reste. Donc, c'est un bel exemple. Et on comprend aussi, en lisant le conte, pourquoi ça vous a trotté en tête pendant 40 ans. Et j'imagine qu'à un moment donné, en fait, vous disiez d'un côté, il faut se lancer parce que ben, les années passent, on rajeunit pas. Et de l'autre, j'imagine qu'il y a eu un déclic ou à un moment donné où une étincelle qui vous a amené à la table des saints qui vous a dit, ben, c'est maintenant, faut le faire, c'est maintenant ou jamais, on se lance.
En effet, il y a eu une étincelle qui est assez, terre à terre, c'est la santé. Moi, j'ai perdu la santé pendant à peu près 20 ans. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je continue comment et je continue pourquoi. J'ai quand même des antécédents dans le milieu de la bande dessinée, dans l'illustration, dans l'écriture, etc. Et je me suis dit, si j'ai une dernière chose à raconter d'ailleurs, quand j'ai rencontré M. Poitras, Julien, qui est venu ici au tout début du projet de la trilogie, je lui disais à ce moment-là, c'était au début de la COVID en plus, ce travail-là, c'est mon testament. Et j'espère que ce ne soit pas mon testament, parce que j'ai un autre projet en tête, là. Mais à ce moment-là, ça l'était, pour toutes sortes de raisons, étant donné que l'âge, à un moment donné, c'est une question qui finit par vraiment nous préoccuper. Quand on a 40, on y pense moins, 50 peut-être un peu, 60, on commence à y penser, 70 passés, ben là, on est en plein dans le jus. Et il faut sortir du bois et faire ce qu'on a à faire le plus vite possible. C'est un petit peu ça, moi, pour dire.
Le plus vite possible, mais sans la faire le plus rapidement possible. Je veux dire, j'ai lu, je pense, à quelque part qu'il y avait pratiquement quoi 5000 croquis que vous aviez fait pour développer le scénario de ça, parce que ça reste, je parlais 360 pages, 3 livres, 5000 croquis, il y a une photo à la fin d'un livre où vous êtes en avant d'un mur d'images. Je veux dire, ça a été un travail quand même assez monumental.
Oui, c'est un travail monumental. Quand je dis rapidement, je veux dire que je n'avais pas de temps à perdre, il fallait que je commence maintenant. Et surtout, il fallait que je me rende au bout parce que je voyais venir la quantité de travail. Tout ça avait commencé avec une seule idée qui était juste de raconter le conte. Mais en cours de route, je me suis dit, le conte, c'est charmant, c'est sympathique, mais j'avais tellement d'autres informations que je me suis dit, il faut que je passe aussi qu'autre chose, qu'on retrouve un peu plus dans le place 2, le huis clos, où l'un des participants à cette histoire de l'opus 1 raconte un peu plus de détails. Il faut ce que je pourrais remettre dans le premier chapitre. Et puis, en plus, comme je suis un bon moteur, j'écrivais, quand j'avais des moments morts, j'écrivais des cartouches. Je voulais rentrer dans la tête des gens et je voulais aussi donner un portrait d'une époque dont on ne parle pas souvent ici dans les cantons de l'Est, en tout cas. Et tout ça, ben, j'ai pris le temps nécessaire. Tous les jours, j'avais vraiment ma pierre blanche à remplir. Je l'ai fait. Il y a des bouts où c'était assez compliqué, évidemment, c'est normal. Mais on ne peut pas précipiter un travail comme ça. Il faut prendre le temps de comprendre les choses. Et il faut prendre le temps de les agencer aussi, de sorte que le lecteur, qui a envie de pénétrer dans cette histoire-là, se retrouve dans un univers qui l'intéresse. Là-dessus, il y a des images, il y a du texte, et puis, mais c'est ça.
Oui, puis en fait, dans un univers, mais dans lequel il n'y a pas... en fait, la correspondance est thématique et dans le choix, je trouve, des tons, des éléments et du ton aussi en général, mais avec trois médiums qui sont quand même différents, rattachés au dessin autant que rattachés au langage poétique. Mais le conte, donc le premier tome, on est vraiment plus dans un conte illustré. Le deuxième, donc le huis clos, où on est dans une bande dessinée qui se rapproche un peu plus de la bande dessinée traditionnelle. Et dans le troisième, où on se retrouve vraiment plus dans, vous l'avez dit, c'est les cartouches, donc c'est des textes poétiques, des textes de prose, avec des illustrations, mais où c'est le texte qui domine, contrairement au premier tome, où le dessin est peut-être un petit peu plus élément distinctif. Donc, ça devient, j'imagine, pour vous, à la fois, donc une façon de créer quelque chose d'ample, mais sans se créer une routine où on fait toujours, on peut zapper d'un tome à l'autre, on peut changer un peu, et en parallèle, j'imagine, de créer aussi trois objets réunis par la même thématique, réunis par la même histoire, mais structurellement et complètement distincts, dans le fond.
Si j'avais 50 ans, je serais peut-être comme Balzac, je prendrais plus mon temps, et j'aurais probablement épilogué sur tous les chapitres que vous venez de dénoncer très bien. Mais c'est un peu dans ma nature d'être polyvalent, comme je le mentionne, je ne me souviens pas, dans un cartouche, je pense. Pourquoi écouter juste un seul oiseau qui chante alors que le ciel en est plein? Et pour moi, c'est la même chose pour les techniques de l'image. Je suis attiré par plusieurs styles, par plusieurs façons de décrire les choses. Comme le conte et le huis clos se situent dans une époque ancienne, je voulais garder une espèce de couleur aussi. On le voit, les tons sont jaunis, c'est vieillot un peu. Et puis, c'est ça, le texte, ben, à mon avis, c'est dommage que les cartouches ne soient pas imprimées parce que c'était prévu pour être lu en tout premier. Ça aurait été le plus fin en réalité. Bon, il y a des conditions techniques qui font que l'éditeur ne peut pas faire de miracle non plus. Il a très bien fait ce qu'il avait à faire. Comme l'écriture, pour moi, est aussi importante que le dessin, l'écriture change autant que le dessin, je sais pas si vous êtes assez jeune pour avoir connu des grands. Je suis pas convaincu. Vous avez quel âge?
Dans la quarantaine.
Ah, mon Dieu, non. Moi, j'ai fondé avec d'autres personnes un magazine qui s'appelait L'Écran en 1973. J'avais 24-25 ans à l'époque. Et ce magazine-là, c'était le premier magazine de BD couleur, telle couleur par ça, en bon anglais, me demandait d'endosser plusieurs habits de plusieurs dessinateurs sous plusieurs noms, sous plusieurs styles, ce qui me plaisait d'ailleurs. Et puis, je l'ai fait. Et toute ma vie, ça a été un peu ça. Il y a un moment où je me dis, ben, j'aimerais aller dans cette direction-là. J'y vais, j'hésite pas. Et c'est pas toujours dans le domaine de la bande dessinée non plus. J'ai fait un peu de choses en dehors de tout ça. Mais quand je suis revenu à la vie, comme vous l'avez peut-être lu dans l'historique quelque part, je me suis dit, t'as encore un peu d'énergie, mon vieux, ben raconte ça. Il faut au moins que tu racontes. Et t'es pas là. Oui.
Oui, puis dans le fond, on trouve, l'idée, c'est de trouver le bon ton pour le bon récit aussi, parce que, veux pas, en lisant ça, ben, on comprend bien, je veux dire, le conte, il y a une facture particulière à le découvrir vraiment en récit illustré. En parallèle, le deuxième, le huis clos, l'histoire des deux frères, en BD, ça fonctionne et j'aurais difficulté à l'imaginer autrement. Et veux pas, le choix d'une approche impose un rythme de lecture, impose une, j'aurais envie de dire, une expérience différente pour le lecteur aussi, là.
Oui, vous avez tout à fait raison, et pour l'auteur aussi, effectivement. Moi, je me suis dit, ce qui avait fait germer le conte dans ma tête, c'était l'idée que la maman des deux garçons avait écrit le conte, et non pas moi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce récit-là sous le regard d'une corneille. Je voulais pas me personnaliser là-dedans. Évidemment, l'auteur est toujours derrière ce personnage, mais c'est un peu l'obligation que j'avais pour le conte de donner une facture particulière avec un ton particulier. Alors que Louis Clos, vous l'avez bien dit, ben, c'est une grande confidence qui nous ramène à certains moments à des éléments de l'Opus 1 qu'on ne pouvait pas raconter dans l'Opus 1. Et puis, ben, l'Opus 3, c'est un éclatement, comme vous pouvez l'imaginer, de toutes sortes de choses.
Oui, puis en fait, j'aimais bien l'expérience aussi de l'ordre de lecture, même si, comme vous dites, les cartouches, on peut s'imprégner de l'atmosphère, de l'ambiance, puis de l'histoire beaucoup plus large, parce qu'on va plus large, plus court, un peu, si on peut dire, par segment, par élément. Mais d'un autre côté, le fait de commencer par le conte, on dirait que les éléments, comme il y a une attention particulière à l'ambiance, au décor, au lieu, et ce sont les mêmes lieux qu'on retrouve dans le deuxième, ce sont les mêmes lieux qui vont être évoqués dans le troisième. Donc, quand on arrive dans un contexte où on a beaucoup moins d'illustrations et que les mots, ben on est déjà complètement porté par le travail et l'exploration visuelle que vous avez proposé, comme si vous accompagniez et orientiez notre imaginaire.
C'est un peu la proposition que je voulais faire, et vous le décrivez très bien, je suis très content de vous entendre dire ceci. Je voulais prendre un peu, et bien je ne le dis pas de façon paternaliste, prendre un lecteur, le prendre par la main, l'amener doucement dans un contexte, qui est le premier opus. Et c'est une corneille qui nous permet d'avoir cette espèce de distance dans le récit. C'est très rare dans mon cas que je vais faire des récits au jeu. Ça ne m'intéresse pas. Dans le deuxième, on fait un récit au jeu, mais c'est pas moi. C'est un personnage à qui j'ai voulu donner une dimension particulière. Et ces personnages ont existé en partie. C'est un tas de rencontres et de témoignages que j'ai eus dans ma vie pour dire, ben oui, peut-être que quelqu'un pourrait laisser la soutane pour telle raison et aller dans telle direction et toutes ces choses-là. Il y avait un bilan en même temps que je faisais de certaines de mes expériences, évidemment, pour colorer tout ça d'une façon unique pour chacun des éléments de la théologie, en fait.
Et tout ça avec une certaine cohérence, en fait, parce que la cohérence, en fait, ben, une cohérence, point. Dans le fond, oui, sur le plan thématique, on l'a dit, sur le plan narratif, mais aussi, j'ai l'impression, sur le plan visuel, je veux dire, le cadre de couleurs que vous vous donnez dans le premier, oui, les techniques sont pas exactement les mêmes, mais on se retrouve quand même dans des tons terreux, dans une certaine même ambiance visuelle aussi, dans le fond, d'un tome à l'autre, au-delà de l'aspect vieillot qui est donné aux pages.
Étant donné que je suis moi-même vieillot, j'ai pas trop de difficulté à vivre avec ces tons-là. Mais encore une fois, vous dites justement, il y a une cohérence. Il faut avoir une certaine cohérence. Du moins dans mon discours, dans ma proposition. J'ai passé l'âge. Moi, j'ai déjà eu une époque où j'étais très intéressé, par exemple, par l'anticipation, la science-fiction et tout ce qu'on pouvait dessiner autour et écrire là-dessus. Mais le temps m'amenait ailleurs. Et puis, j'ai voulu donner l'accent surtout à des choses qui sont importantes, peut-être pour ma population aussi, là, je l'ai dit modestement. Là. J'ai pas la prétention d'être inspiré par une quelconque divinité, mais je voulais laisser cette histoire-là aux gens pour qu'ils s'en souviennent. C'est quand même leur histoire ici à Waterloo. Mmh. Et puis ça demande une certaine cohérence. On n'écrit pas n'importe comment, n'importe quoi. Et c'est intéressant d'avoir ce cadre-là à mes yeux.
Oui, dans le fond, d'avoir plusieurs éléments. Dans le fond, on dit qu'on veut garder les gens happés d'un point de vue avec la narration, l'histoire, les éléments. Il y a des choses qui se passent. On veut que visuellement, dans le fond, les gens puissent se repérer, comprendre qu'on est dans un même ouvrage à multiformat. Ouais. Et dans le fond, essayer d'être, j'ai envie de dire, essayer d'avoir quelque chose qui offre de l'historicité sans nécessairement avoir le poids de la véracité historique absolue non plus. Donc une fiction historique, mais qui est ancrée dans des faits, dans des anecdotes, dans une réalité qui a nécessité, j'imagine aussi, soit l'expérience d'une vie, soit beaucoup de recherches en parallèle, ou les deux.
Ben, vous faites une distinction qui est très importante et que je trouve remarquable et qui était la mienne aussi. On parle toujours de l'histoire avec un ton trop historique, avec des dates, avec des faits, mais on entre très, très rarement dans la tête et dans la vie des gens qui l'ont vécu. Et moi, c'est ce que je voulais. Je suis pas un historien. Il a quand même fallu que je m'immerge par des recherches et toutes sortes de choses dans cette époque-là, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour raconter beaucoup plus ce qu'étaient les gens qui vivaient à ce moment-là l'histoire que raconter l'histoire où on ne voyait pas les gens vivre cette histoire-là. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui.
C'est un peu ça l'idée, vous l'avez bien dit tantôt. On veut ramener le lecteur dans une ambiance historique, mais on ne veut pas l'assommer avec des faits historiques et des dates et tout ça. C'est ça l'objet de la trilogie, en fait.
Et le deuxième tome, avec une base BD, où là, dans le fond, dans le premier, il y a quand même un aspect, en fait, je dirais, une approche visuelle qui est plus standardisée. Si on commence par le premier tome, où généralement, il y a un bout de texte, il y a un élément d'illustration, le texte va prendre plus ou moins d'espace selon son ampleur, l'illustration aussi. J'imagine que dans ce cas-là, l'objectif et le défi, c'est de trouver quoi bien illustrer, quel élément visuel amener d'une planche à l'autre pour pas que ça devienne redondant visuellement, que le visuel apporte quelque chose. Il y a un travail plus de bien cibler, dans le fond, l'élément qu'on va représenter.
Tu avais raison. Par exemple, si vous vous souvenez, je ne me souviens pas d'une page, mais vous avez vu un lièvre avec ce qu'on appelle des craquias. En réalité, ce sont des bardanes collées au derrière. Dans le récit, ça se présente au moment où les premiers pionniers arrivent. Le pays est encore assez désert et il y a une vie, il y a une faune qui vit dans ce décor-là. Et je me suis dit, c'est pas nécessaire d'être redondant dans l'image et de faire en sorte que l'image exprime de façon concrète ce qui vient d'être écrit. Ce qui vient d'être écrit, ça donne déjà une idée au lecteur. On peut rajouter des éléments comme la vie des animaux sauvages à ce moment-là. Donc, si le lièvre court avec des bardanes mal derrière, il est probablement poursuivi par un renard ou par un autre prédateur. Et ça, le lecteur est capable de s'amuser là-dedans. Il est capable d'avancer dans ça. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Par contre, il faut qu'effectivement, dans le style graphique, dans le ton donné aux images, il y ait une cohérence qui nous permette de faire tout ça.
Et quand je parlais tout à l'heure de rappel ou d'éléments de correspondance, un exemple qui me vient en tête, c'est quand vous mettez le village dans le tome 1, le village qui est un peu en panorama, il y a différents axes où on le présente de loin. Et dans le deuxième, quand on voit un des personnages, dans le fond, observé au loin, on retrouve ces panoramas qu'on avait découverts au premier, où on retrouve essentiellement, je trouve, à peu près la même composition. Et je trouve ça frappant, surtout quand on les lit un peu bout en bout dans une chronologie assez rapprochée. Mais il y a des petits éléments comme ça qui nous font faire des allers-retours de « Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu dans le livre précédent. » Et je trouvais que ça semblait haïtien, dans le fond, qu'on reprenait en partie une composition très similaire.
Ah, ça, c'est des trucs de vieux dessinateurs, tout ça. Non, mais en fait, je me suis essayé, effectivement, pour les villages, il y a un monsieur qui s'appelle Welch, qui est venu ici à Waterloo. Ça existe. On le retrouve dans le plus 3. Et il est venu dessiner le village à la manière dont on le faisait à l'époque, en perspective, probablement aussi avec les caméras Lucida. Les chambres noires portatives, c'est un prisme qu'on utilise. Et puis bon. Et ça donne une structure très particulière. C'est tout en isométrique, toujours avec la même angle de rue. On ressent ça dans les deux opus, hein, où on voit ce village-là. Et je voulais rappeler Welch Henry Welch, qui à cette époque, dans les années 87, était arrivé ici avec son frère de l'Allemagne, et puis il se promenait de ville en ville pour faire les dessins de toute la ville, de tout le village. C'était très intéressant. Ce dessin-là est à l'hôtel à la mairie présentement. Et il faudrait qu'on le préserve.
Oui, donc ça devient intéressant parce qu'en même temps, ça devient une référence directe aussi. Donc quelqu'un qui passe à Waterloo ou qui a vu cet élément-là retrouve aussi une référence à des techniques de l'époque. Donc ça ajoute, en fait, ça ajoute à la valeur de l'ensemble aussi.
Ah, l'idée, c'était d'en ajouter le plus possible.
et à travers les 360 planches, je trouve qu'il y a deux planches qui se distinguent drastiquement, en fait, où, subitement, pendant deux pages, on est complètement ailleurs, transporté en dehors de ce récit-là, ou du moins, c'est les deux qui m'ont frappé, il y en a peut-être d'autres aussi, mais c'est le rêve de Théo qui arrive à quelque part dans le deuxième tome, où là, oups, on est dans un univers un peu psychédélique, on retrouve des couleurs bleues, des couleurs un peu plus frappantes, et on sort un peu momentanément dans le fond du récit.
Il ne faut pas oublier que Théo, il est, vous l'avez deviné un peu, il est autiste. C'est un terme qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et parfois, il a aussi des échappées comme ça qui sont un peu particulières. Ça me rappelle le frère d'ami que j'ai eu à un moment donné qui faisait un peu ce genre de divertissement, si on peut dire. Et oui, et je me suis permis de proposer ça. D'ailleurs, je n'ai pas d'explication réellement là-dessus. Il y a son frère qui était un peu perdu. Il est bon, ça veut savoir, il est revenu. Il a déjà été témoin de ces choses-là. Et quelle est l'autre image qui vous a étonné?
Mais en fait, je pense que c'est cette double planche-là, en fait, particulièrement, je trouve qu'il ressort parce que pour le reste, je veux dire, même dans la BD, après ça, on place quand même beaucoup aussi l'architecture, la région, sinon de façon générale, qui devient, je trouve, un personnage dans tous les éléments, autant dans le texte que dans les visuels, dans la mise en scène des lieux, ou sinon vous nous transportez souvent vers l'extérieur, vers la pénombre, des choses comme ça aussi. Donc c'est Waterloo et la région devient l'autre personnage de la trilogie à côté du corbeau, dans le fond.
Ah, tout à fait. Le Waterloo, c'est un personnage dans tout ça. C'est le Waterloo en construction, on le voit. Par exemple, à un moment donné, on a des images d'une église qui s'appelle présentement l'église Saint-Luc. Je vais demander à des amis architectes comment on faisait pour construire les fenêtres en ogive dans de la brique. Comme ça, est-ce qu'on mettait des formes particulières pour retenir la brique et tout. Ils m'expliquaient tout ça. Moi, je trouvais ça intéressant, mais je dirais que tous les artisanats architecturaux m'intéressent beaucoup. Si j'avais été plus brillant en mathématiques, j'aurais probablement fait architecture. Chose que j'ai léguée à mon personnage. Mais au moins, lui, il va le faire.
Et évidemment, tout ce dont on parle, on le découvre, dans le fond, sur les trois livres donc de cette trilogie qui s'appelle Corvus. Drac Berthiaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.
Ça me fait plaisir.
Bonne continuité, alors.
À vous également.
Merci.
Alors, je rappelle Drac Berthiaume, donc, qui est auteur de cette trilogie. Donc, Corvus, premier tome, Le Conte, deuxième tome, Le Huis Clos, troisième tome, Les Cartouches. C'est disponible chez Moelle Graphique. Vous pouvez vous imprégner du troisième. Il est disponible en PDF sur le site de l'éditeur. Les deux autres sont disponibles en librairie. Et voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura l'occasion de porter, j'ai l'impression, un autre regard un peu sur l'histoire. Clairement, on est dans le ton en ce début de saison, entre autres avec Richard Valran la semaine dernière, cette semaine, Drac Berthiaume. La semaine prochaine, on va passer l'émission avec Djibril Morissette-Fan et Michel Viau autour de Havana Connection. Donc, on ira vers Cuba. Et d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Vie en BD.